était déjà vieux, ne le prenant qu'au moment de combattre. Dès qu'il l'avait monté, il faisait donner le signal de la charge. Ce jour-là, il parla assez longtemps aux Thessaliens et aux Grecs, qui tous augmentèrent sa confiance en lui criant qu'il les menait à l'ennemi. Alors, passant sa javeline à la main gauche, il éleva sa main droite vers le ciel et pria les dieux que s'il était véritablement fils de Jupiter, il daignasse défendre et fortifier les Grecs. Le devin Aristandre, qui, vêtu de blanc et une couronne d'or sur la tête, marchait à cheval à côté de lui, fit remarquer aux soldats un aigle qui volait au-dessus de la tête du roi et dont le vol le menait droit à l'ennemi. Cet augure remplit de courage tous ceux qui le virent. Ils s'exhortent, ils s'animent les uns les autres, la cavalerie court à l'ennemi et la phalange se déploie dans la plaine comme les vagues d'une mer agitée. Les premiers rangs n'avaient pu encore en venir aux mains, que déjà les barbares étaient en fuite. Ils furent poursuivis très vivement. Alexandre poussait les fuyards jusqu'au centre de leur bataille, où ils avaient aperçu de loin Darius par-dessus les premiers bataillons. Placé au milieu de son escadron royal, ce prince s'y faisait distinguer par sa bonne mine et sa taille avantageuse. Il était assis sur un char très élevé, défendu par l'élite de la cavalerie qui, répandue autour du char, paraissait disposée à bien recevoir l'ennemi. Mais quand ils virent de près Alexandre, qui, d'un air terrible, renversait les fuyards sur ceux qui tenaient encore fermes, ils furent si effrayés que la plupart se débandèrent. Les plus braves et les plus attachés au roi se firent tuer devant lui, et en tombant les uns sur les autres, ils arrêtèrent la poursuite de l'ennemi, car dans leur chute, ils saisissaient les Macédoniens et s'attachaient même aux pieds de leurs chevaux. Darius se vit dans ce moment menacé des plus affreux dangers. Ses cavaliers, rangés devant son char, se renversaient sur lui. Il ne pouvait faire tourner le char pour se retirer. Les roues étaient retenues par le grand nombre de morts, et les chevaux, embarrassés, cachés presque par ces monceaux de cadavres, se cabraient et n'obéissaient plus aux freins. Il abandonne donc son char et ses armes, monte sur une jument qui venait de mettre bas et prend précipitamment la fuite. Il est vraisemblable qu'il n'aurait pas échappé à la poursuite d'Alexandre si, dans le même instant, il ne fût arrivé de nouveau courrier de Parménion demander du secours au roi parce qu'une grande partie des ennemis tenait encore ferme et ne paraissait pas devoir sitôt céder. En général, on reproche à Parménion d'avoir monté dans cette bataille de la lenteur et de la lâcheté. Soit que la vieillesse eût affaibli son audace, soit, comme le prétend Callisthène, qu'il n'eût pu plus supporter la puissance et l'orgueil d'Alexandre et qu'il fût jaloux de sa gloire. Alexandre, affligé de ce second message, qu'il appelait d'un autre côté, fit sonner la retraite. Mais il n'en dit pas à ses soldats la véritable cause. Il feignit qu'il était las de carnage et que la nuit l'obligeait de cesser le combat. Pendant qu'il courait à son...